Accent d'Europe, Catherine Roland.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
I know you're gonna dig this.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour à tous, bonjour Evmino.
Bonjour Catherine.
Alors, retrait des États-Unis, présence réduite des chefs d'État. La COP23 qui s'ouvre le 6 novembre à Bonn s'annonce moins décisive que la médiatique COP21 de Paris. Mais pour ses organisateurs, elle est tout aussi cruciale pour l'avenir de la planète. Parallèlement d'ailleurs, une nouvelle tendance émerge. De plus en plus de jeunes issus de la société civile portent plainte. Ils portent plainte, Eve, symboliquement ou non, contre leur gouvernement pour dénoncer le peu d'efforts entrepris pour lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, dernièrement, c'est un groupe de très jeunes Portugais qui a décidé de poursuivre en justice plusieurs gouvernements européens. Ils les accusent de ne pas les protéger suffisamment des conséquences du réchauffement climatique. Cet été et ces derniers jours encore, le pays a connu l'un des pires épisodes de feux de forêt de son histoire. Bilan, plus de 60 morts et des centaines de blessés. 6 écoliers de la région de Leira, au centre du pays, ont donc décidé d'entamer une procédure juridique pour défendre leur droit à la vie, tel qu'établi dans la Convention européenne des droits de l'homme.
Alors, sur quel argument juridique se sont fondés ces jeunes Portugais?
Eh bien, sur le papier, leur raisonnement est implacable. La Convention européenne des droits de l'homme est aujourd'hui ratifiée par 47 pays européens et engage donc ces États à respecter les dispositions du texte. Or, l'Europe des 28 est aujourd'hui le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre et l'écrasante majorité de la communauté scientifique reconnaît que le réchauffement de la planète ces dernières années est principalement dû aux activités générées par l'homme. Exploitation des ressources naturelles, activités industrielles, déforestation, bref, ces jeunes Portugais estiment tout simplement que leur vie est en danger, car les projections des spécialistes permettent déjà d'établir que les épisodes climatiques vont s'intensifier dans les années à venir.
Le petit groupe de jeunes écoliers a d'ailleurs demandé de l'aide aux internautes pour soutenir sa cause.
Aujourd'hui épaulés par plusieurs ONG pour mettre au point leurs requêtes et recruter notamment des avocats, les écoliers ont lancé une grande cagnotte en ligne. Dans un premier temps, 20 000 euros seront nécessaires afin de recueillir les preuves étoffées. Puis dans un deuxième temps, s'ils y arrivent, 350 000 euros devront être amassés afin de porter leur cause devant la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller visiter leur page sur le site de financement participatif réservé à la justice, Crowd Justice.
Oui, dont les auditeurs vont trouver le lien sur la page de l'émission. Alors cette plainte n'est pas isolée, Eve, car je le disais, de plus en plus de jeunes demandent des comptes au pouvoir en place.
Et oui, l'outil juridique est aujourd'hui devenu un moyen de porter la cause écologique de cette génération qui hérite d'une planète dans un très mauvais état et risque d'en subir les conséquences toute sa vie. En France, l'association Notre Affaire à Tous, menée par un groupe de jeunes trentenaires issus du monde juridique et politique, a aussi déposé en 2015 un recours contre l'État qu'elle accuse de ne pas s'être donné les moyens nécessaires à la réalisation d'une politique ambitieuse et adaptée aux enjeux liés au réchauffement climatique. D'autant qu'avec la signature des accords de Paris, il y a 2 ans, 195 pays ont pris de nouvelles dispositions et fait de nouvelles promesses. Les jeunes Européens ont tout intérêt à vérifier qu'ils les tiennent.
Et on en parlera prochainement dans Accent. Merci Eve Minot, on se retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et nous partons en Pologne avec ces révélations surprenantes sur les liens secrets entretenus par un ministre et la Russie qui provoquent une violente polémique depuis plusieurs mois. Ces révélations ont été faites par le journaliste d'investigation Tomasz Piatek dans son livre « Fruit de 18 mois d'enquête » qui met à nu les relations entre le ministre de la Défense conservateur, Antoni Macierewicz, et le Kremlin. Devenu un best-seller, Macierewicz et ses secrets s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires et a fait du coup de l'écrivain l'ennemi numéro un des conservateurs au pouvoir. Maja Szymanowska est allée à la rencontre de Tomasz Piatek.
Tomasz Piatek a la silhouette massive et ramassée du lutteur. Et il faut en effet beaucoup de force pour s'attaquer au tout-puissant ministre de la Défense Antoni Macierewicz, qui a licencié la plupart des généraux de l'armée. C'est également lui qui soutient l'armée du territoire des groupes paramilitaires de civils, dont il a fait le nouveau corps d'armée directement placé sous ses ordres.
Ce gouvernement est anti-russe dans ses discours, mais l'influence de la Russie et de ses services spéciaux est énorme. À la publication de mon livre sur les liens entre le ministre et les services secret russe et la mafia russe. Massiarevitch ne m'a pas traîné devant un tribunal civil pour blanchir son nom. Il ne m'a pas accusé d'outrage. Il m'a accusé de terrorisme et il a envoyé une lettre au procureur militaire disant qu'il me soupçonnait de crimes terroristes. Il s'agirait de menaces et de violences de ma part envers le ministre. Or, je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne peux pas être l'auteur de ces faits.
Une opération d'intimidation en dehors des procédures judiciaires civiles qui permet au gouvernement, selon Tomasz Piątek, de le mettre sur écoute. Le journaliste gêne effectivement Macierewicz en décrivant par exemple dans son livre pourquoi celui-ci a rompu le contrat pour l'achat des hélicoptères européens Caracal qui se montait à 2,4 milliards d'euros, selon Paris.
Le contrat a été presque accepté, mais soudain, Macierewicz a déclaré qu'il le rompait et préférait envisager l'achat des hélicoptères américains Black Hawks. On pourrait croire que ce sont les États-Unis qui ont fait pression, mais il s'agit encore de la Russie. 11 jours avant l'annonce de la rupture, Macierewicz a rencontré le lobbyiste américain et ancien sénateur républicain Alphonse D'Amato. Il se trouve que celui-ci travaille pour l'entreprise Lockheed Martin qui produit les Black Hawks. On peut donc penser que la rupture du contrat a eu quelque chose à voir avec cet entretien.
Można więc domniemywać, że zerwanie kontraktu na Caracale miało związek z tym spotkaniem.
Alphonse D'Amato est aussi l'intermédiaire entre Lockheed Martin et la Russie, qui vend aux Américains des réacteurs de fusées et autres moteurs. Pour Tomasz Piątek, la boucle est bouclée. C'est le Kremlin qui a tiré les ficelles dans cette affaire d'hélicoptère, qui a sérieusement mis à mal les relations entre Varsovie et Paris. Cependant, ces révélations fracassantes, si elles ont assuré le succès du livre et même des lectures publiques, n'ont pourtant pas remis en cause la position du tout-puissant ministre Antoni Macierewicz, qui garde toujours son poste.
La Russie, ou un film dont on entend tout de suite la bande-annonce, ou un film sort donc demain et fait beaucoup parler de lui. Mathilda raconte la liaison entre le tsarevitch Nicolas, le futur Nicolas II, dernier tsar de Russie, et la ballerine d'origine polonaise, Mathilda Kczesinskaya. La polémique alimentée par ce film est retentissante. Le réalisateur est accusé carrément de souiller l'image du tsar et d'offenser les croyants. Malgré les demandes d'interdiction, la distribution de Mathilda a été validée, mais des orthodoxes radicaux ont menacé les cinémas qui diffuseraient le film. Retour sur ce scandale cinématographique avec Étienne Bouche qui a pu voir le film.
Sur la scène du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Mathilda laisse échapper un sein. Depuis la loge impériale, le tsarevitch Nicolas n'en perd pas une miette. Le film d'Alexei Outchitiel raconte de façon très sucrée l'amour de jeunesse du futur empereur. Il y a un an, c'est la députée Natalia Poklonskaya qui ouvrait les hostilités. À partir de la bande-annonce, celle qui fut procureure de Crimée juge que le film est un tissu de mensonges. Mais surtout, elle estime qu'il offense le peuple russe et salit l'image de Nicolas II. Interrogée par Komsomolskaya Pravda, elle concentre ses critiques sur l'interprète principal. Poklonskaya a mené l'enquête, les prestations théâtrales de l'acteur sont indécentes.
Quand l'acteur Lars Eidinger a été choisi pour le rôle de notre souverain orthodoxe, peut-on imaginer que les créateurs du film n'aient pas compris que l'image de cet acteur porno allemand dérangerait les orthodoxes, les croyants, les gens qui ont un sens de la dignité et qui respectent leur histoire ?
Des représentants de l'Église orthodoxe ont exprimé leur colère. Fusillé par les bolcheviks en 1918, Nicolas II et sa famille ont été canonisés en 2000. Les icônes à l'effigie de la famille Romanov ornent désormais les églises de Russie. La romance entre le Saint Nicolas et la danseuse aux 32 fouettés passe mal. Le film s'est aussi attiré l'hostilité des républiques musulmanes du Caucase, Daghestan, Tchétchénie, Ingouchie. Au nom du respect de la foi, les autorités locales ont demandé son interdiction. Le réalisateur de Mathilda, Alexei Outchitiel, explique qu'il a voulu raconter le destin d'un homme tiraillé entre l'amour et le devoir, et qu'il ne s'attendait pas à de telles réactions.
La quasi-totalité des détracteurs, disons 98%, n'a pas vu le film. C'est pourquoi il s'agit surtout de on-dit et d'une méconnaissance du sujet. Quant aux accusations qui sont formulées, il me semble que c'est du jamais vu. Si le film était sorti et qu'il suscitait des débats, très bien. Mais avant même la sortie, c'est tout à fait surprenant.
Une agitation telle que Vladimir Poutine lui-même a été interrogé sur le film lors de sa traditionnelle émission de questions-réponses. Sa position médiane n'a pas permis d'éteindre la polémique. Sous la pression de groupuscules radicaux, deux gros exploitants ont annoncé qu'ils renonçaient à programmer le film. Constantin Dobrynin, l'avocat du réalisateur, revient sur les incidents ayant précédé cette décision sans précédent dans la Russie post-soviétique.
Au départ, cela ressemblait à une mauvaise blague, sauf qu'en un an, on est arrivé à de véritables actions extrémistes. Oui, le pouvoir a réagi, mais entre cette réaction et les premières menaces, 8 mois se sont écoulés. Les menaces ensuite ont été mises à exécution. En un mois, on a tenté d'incendier un cinéma, le studio d'Alexei Uchitel, et on a même brûlé 2 voitures. Ici même, devant nos bureaux, dans le centre de Moscou.
Alexei Uchitel a appelé les forces de l'ordre à protéger les spectateurs qui iraient voir le film. Les autorités, longtemps passives, sont finalement intervenues. Elles ont condamné la campagne d'intimidation. Le ministre de la Culture a pris position en faveur du film. La presse sérieuse a estimé généralement qu'en faisant la promotion d'un conservatisme étroit, le pouvoir s'est retrouvé pris à son propre jeu. Qu'une députée loyale ait d'abord agité le chiffon rouge, que les autorités aient ensuite tardé à réagir, la polémique aurait été montée artificiellement. C'est ce que pense l'auteur de livres historiques, Serge Netchaïev.
D'après moi, c'est une provocation faite exprès par notre gouvernement, parce que actuellement, les gens normaux vivent d'une manière très très difficile. Et le mécontentement s'accumule. Et la méthode la plus efficace dans ce cas, c'est réorienter le mécontentement du peuple pour que les gens ne posent pas des vraies questions. Alors les gens qui sont contre ce film, qui menacent de brûler les cinémas, ne peuvent même expliquer pourquoi ils sont tellement énervés. Chaque radicalisme est basé sur le mécontentement.
Le célèbre journaliste Vladimir Posner compare le cas de Mathilda à celui du docteur Jivago de Boris Pasternak. À l'époque, personne ne l'avait lu, mais tous étaient convaincus que l'œuvre était anti-soviétique. La qualité du film étant assez discutable, la comparaison s'arrête là. Ce n'est pas la première fois qu'un contenu artistique suscite une violente opposition. Les spectacles contemporains du centre Gogol de Moscou en sont par exemple régulièrement la cible. Une tendance qui semble avoir été encouragée par une loi votée en 2013 punissant l'offense aux sentiments religieux.
Fini la mode du jeunisme au Royaume-Uni. Ce sont les plus âgés qui tiennent la barre en politique. Mais en fait, le désamour pour les jeunes politiques ne date pas du vote de juin 2016 sur le Brexit, Marie Billon.
On se souvient de l'arrivée triomphante de Tony Blair à Downing Street en 1997, un premier ministre qui se vantait de jouer de la guitare électrique. La mode était alors aux jeunes leaders. Depuis, le jeunisme semble passer de mode au Royaume-Uni. Lors des élections de 2015, à droite, à gauche et au centre, tous les chefs de parti avaient encore la quarantaine. Chacun devait savoir parler et se faire comprendre des jeunes générations. L'important était de ne pas apparaître en donneur de leçons, mais en homme, car aucune femme n'était à la tête d'un grand parti. Un homme donc actif, sachant retrousser ses manches. Mais ce temps est bien révolu aujourd'hui. La première ministre Theresa May a 60 ans, le travailliste Jeremy Corbyn 68 ans et le nouvellement élu chef des libéraux-démocrates Vince Cable a 74 ans. C'est la première fois depuis 1955 que les Britanniques se retrouvent avec une clique de politiciens si âgés. Il faut dire que les jeunes ont déçu Tony Blair le premier mais aussi David Cameron en organisant un référendum sur le Brexit dont les résultats donnent encore des sueurs froides à tant de jeunes. Tous les quarantenaires ne sont d'ailleurs pas moderne pour autant. Le centriste Tim Farron a démissionné cet été parce qu'il ne pouvait plus assumer ses fonctions de chef de parti tout en restant fidèle au Christ. On est loin du mic drop, ce lâchage de micro désinvolte et stylé. Et son parti a justement élu Vince Cable, un homme qui avait renoncé à se présenter en 2007 car il se pensait trop vieux. Mais le plus grand facteur de changement, c'est Jeremy Corbyn. Du haut de sa 60aine bien sonnée, il a su enthousiasmer les jeunes comme aucun autre homme politique recouvert du vernis de la modernité n'y est parvenu ces dernières années. La fougue serait devenue une prise de risque, la constance une valeur éprouvée, l'atout charme.
Le Le gaélique continue de diviser le monde politique en Irlande du Nord. La langue traditionnelle irlandaise ne bénéficie d'aucun statut particulier, au contraire de la République d'Irlande, où c'est l'une des deux langues officielles. À Belfast, les partis nationalistes réclament un statut pour la protéger, alors que le pays ne compte que quelques milliers de locuteurs. Une revendication qui irrite fortement le camp des unionistes fidèles au Royaume-Uni. Et c'est pourtant dans un quartier protestant à l'est de Belfast qu'est née il y a quelques années une école de gaélique au succès grandissant, et c'est le reportage de Julien Lagache.
Ils sont une douzaine autour de la table à répéter mot à mot les couplets d'une chanson en gaélique. Tous sont des retraités, en majorité protestants, qui, comme Paul Lynas, refusent les étiquettes.
J'ai toujours voulu apprendre le gaélique, depuis que je suis adolescent, je crois. Mais en tant que protestant, il y avait peu d'opportunités pour avoir des cours. Je viens ici depuis 3-4 ans et je chante aussi. Ça m'aide pour apprendre.
On devine au large sourire de l'ancien fonctionnaire qu'il apprécie son groupe de chant du mardi. Il vient même exprès d'une ville voisine pour assister à son cours dans les locaux du programme Touras, qui signifie « voyage » en gaélique. Et pour les protestants, c'est justement un voyage singulier que de franchir la barrière identitaire, explique Ivor Reid, lui aussi adepte d'Irlandais désormais.
J'étais un peu inquiet quand j'ai commencé le gaélique. Vraiment, je me demandais ce que je faisais là. C'est quand même la langue de l'ennemi. Mais je suis venu et c'était amusant. Ma première impression n'était pas la bonne et j'en ris maintenant.
Ivor Reid travaille au centre communautaire Skynos où est hébergée l'école et c'est l'épouse d'un ancien leader de parti unioniste qui la dirige. Linda Irvine raconte de sa voix calme et posée qu'après être tombée amoureuse de la langue, elle s'est retrouvée aux commandes de Touras un peu par hasard. Mais à l'ouverture de l'école en 2011, elle a constaté une certaine incompréhension.
I think there was a lot of shock in the area at first by some people.
Je crois que ça a choqué des gens du quartier au départ. Certaines personnes qui soutenaient financièrement le centre ont appelé pour dire qu'ils ne donneraient plus d'argent à cause des cours d'irlandais. On a aussi eu quelques insultes sur Facebook, mais rien de plus.
Des incidents dont elle parle au passé, il faut dire qu'en 6 ans, l'école a bien grandi. Au départ, elle ne proposait qu'un seul cours par semaine, contre 13 aujourd'hui pour près de 160 élèves, majoritairement protestants. Preuve pour l'enseignante Kiva Nihahol que l'animosité envers l'enseignement de la langue est surtout politique.
Souvent, la société a un temps, si ce n'est des années d'avance sur la politique. Et je pense que nous avons trouvé un moyen de nous rapprocher à travers une langue, des chants, l'enseignement d'une histoire, de la mythologie, même des noms qui nous entourent. C'est tout aussi important de partager ces éléments de culture générale. Et ce mouvement s'amplifie. D'ailleurs, c'est sûrement la plus grande classe de débutants que j'ai eue.
Le programme Touras entend d'ailleurs créer des ponts ou réparer les malentendus générés par le débat politique. C'est ce qui a séduit Nathalie Craig, institutrice de 28 ans, qui a commencé les cours de gaélique cette année.
En Irlande du Nord, il y a cette idée répandue que le gaélique est destiné à une partie de la population. Et c'est ridicule. Pour moi, c'est important de partager cette histoire et cette culture que l'on a en commun.
La directrice de Touras, Linda Irvine, est d'ailleurs devenue une fervente avocate d'un statut légal pour protéger le gaélique, qui connaît un regain d'intérêt, y compris dans l'éducation nationale, où le nombre d'écoliers inscrits dans les cursus de langue irlandaise a doublé en 15 ans, ce qui ne résout pas un autre problème.
L'irlandais disparaît en tant que langue maternelle alors qu'il revient comme deuxième langue, notamment dans les villes d'Irlande du Nord. Seulement, ceux qu'ils pratiquent en deuxième langue n'ont pas la même richesse de langage et ça, c'est difficile à préserver.
Il faut dire que la campagne qu'elle mène pour sauvegarder le gaélique lui vaut toujours de la méfiance de la part d'une frange protestante d'Irlande du Nord, puisque son combat est aussi celui des partis nationalistes, majoritairement catholiques. Et à l'échelle du pays, ce débat, qui dure depuis près de 20 ans, continue de paralyser les institutions.
Ludivine Amado était à la réalisation d'Accent. Ne zappez pas dans quelques instants le journal.